L'alternative, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes connectés sur votre très chère émission L'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans compromis, sans concession, sans détour. Recevez tous, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, mes sincères et chaleureuses salutations dans le tout-puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très très heureux d'être là, d'honorer une fois de plus ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur, ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. L'heure de la vérité, comme je le disais tantôt, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans compromis, sans détour, sans concession. Pour vous servir, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et comme toujours, cette émission se déroule sous l'œil très très vigilant et très très attentif de son excellence, sa majesté, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le tout puissant, l'admirable conseiller, le seigneur Jésus Christ. Et en ces studios, bien entendu, son excellence, le Saint-Esprit, est totalement au contrôle de toutes choses. Oui, très chers auditeurs, très chères auditrices, je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans la série des enseignements concernant la fin des temps et les fausses doctrines. Oui, la fin des temps et les fausses doctrines. Oui, nous sommes vraiment à la fin des temps. Et tout ce qui nous entoure est là pour nous rappeler que nous sommes vraiment à la fin des temps, à la lumière des Saintes Écritures, avec le mal qui va grandissant, avec le péché qui ne fait que prendre des proportions gigantesques. Oui, les catastrophes naturelles, des guerres, des famines, tout cela est là pour nous rappeler que nous sommes à la fin des temps. L'homosexualité, qui est de plus en plus validée dans beaucoup de pays, même dites les plus civilisés de la terre, tout cela nous montre que nous sommes à la fin des temps. Tout cela nous montre que nous sommes à la fin des temps. Donc c'est le moment de vous réveiller enfin de votre sommeil et d'ouvrir grandement vos yeux et de vous tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque vous allez voir toutes ces choses, sachez qu'il est à la porte. Donc à tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut revenir chercher ceux-là qui ont cru en lui. Et beaucoup n'auront que les yeux pour pleurer. Lorsqu'ils vont se rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a enlevé son église de cette terre. Et c'est alors que le diable va prendre ce monde en otage. Et le mal n'aura plus de limites. Parce que la Bible nous parle de l'Antichrist qui va régner sur cette terre. Et tout est mis en place pour accueillir l'Antichrist. D'ailleurs, rappelez-vous, on a vulgairement l'habitude d'entendre que le monde est devenu un village planétaire. Oui, avec la technologie qui a tellement évolué ces derniers temps, l'Internet, avec les progrès scientifiques, techniques, informatiques, les satellites que les hommes envoient dans l'espace presque tous les jours, tout cela est là pour préparer l'avènement du nouvel ordre mondial avec l'Antichrist. Vous deviez le savoir. Le monde est devenu un village planétaire. Donc un petit village où on peut facilement connaître tout le monde. Et ouvrez grandement vos yeux et vos oreilles. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur Sauveur, il est temps de le faire. Il est temps d'ouvrir vos cœurs et de l'accepter. Il est temps de vous convertir. Il est temps. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour résister à la voix du Seigneur, résister à l'appel du Seigneur, et un temps pour ouvrir son cœur et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai le devoir de vous rappeler cela. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes toujours dans la série des enseignements concernant la fin des temps et les fausses doctrines. Beaucoup de choses ont été déjà dites dans cette émission concernant particulièrement les fausses doctrines qui ont été enseignées. Nous allons tout simplement continuer. Mais avant de continuer, je vais quand même rappeler pour vous mettre un peu dans le bain pour ceux qui étaient à l'écoute et pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute. Je vous disais à la lumière des Saintes Écritures que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est née dans la division, s'est formée dans la division et a évolué toujours dans la division. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, lorsque vous avez l'habitude de comprendre que la vérité biblique divise aussi, il ne faut pas être surpris. Parce que la vérité n'est pas là pour faire l'unanimité. La vérité est là tout simplement pour éclairer les gens et pour les affranchir. Et ceux qui sont pour la vérité acceptent cette vérité. Et ceux qui refusent cette vérité sont comme les ennemis et qui se dressent en face pour combattre. Et forcément, il y aura division. Il y aura division. Nous avons lu beaucoup de versets dans ce sens. D'ailleurs, sans plus tarder, nous pouvons encore lire quelques versets pour confirmer cela. Et je tiens également à vous dire que dans ce studio, j'ai un frère qui est venu de très loin pour participer en direct à cette émission. Le frère qui est juste tout près de moi. Comment ça va?
Ça va très bien.
Oui, tu peux te présenter.
Moi, je m'appelle Nankep Chichio Yannick. Moi, j'aime qu'on m'appelle le plus souvent frère Yannick.
Ok, donc il y a un frère qui est juste là à côté de moi qui a décidé de venir vivre en direct cette émission. Et il est la bienvenue dans ce studio. Nous allons, comme je le disais tantôt, lire quelques versets pour confirmer que la vérité ne fait pas toujours l'unanimité, la vérité divise aussi. Et nous pouvons commencer par le livre du commencement, Genèse, le premier chapitre, les versets 3 et 4. Je vais donner la parole à mon frère qui est juste à côté de moi, qui puisse lire ces versets pour nous. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, les versets 3 et 4.
Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres.
Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu a, lorsqu'il a créé le monde, séparé la lumière d'avec les ténèbres, pour dire qu'en réalité, Dieu n'a jamais voulu que la lumière et les ténèbres marchent ensemble. C'est pour cette raison qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc la lumière ne peut pas marcher ensemble avec les ténèbres. Le mensonge ne peut pas marcher ensemble avec la vérité. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Il n'y a pas d'après près, il n'y a pas de demi-vérité. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Malheureusement, le constat, c'est que l'homme est le champion, surtout le diable, champion dans le mélange. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Non. Si vous êtes pour la lumière, prenez position pour la lumière. Si vous êtes pour les ténèbres, restez dans vos ténèbres et défendez les ténèbres. Donc nous voyons que depuis le commencement, tu as fait une certaine division, une certaine séparation. Et comme je le disais tantôt, même lorsque le Christ va venir, il ne doit pas faire l'unanimité. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans Jean, le chapitre 1, le verset 12. Et comme d'habitude, je vous invite à avoir un stylo pour noter tous les versets qui seront donnés à partir d'ici afin de vérifier par la suite. Parce que le plus important, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur ce que vous-même vous pouvez vérifier dans votre Bible. D'ailleurs, si vous n'en avez pas encore, je vous conseille vivement de faire tout pour vous en procurer une. C'est très très important. Même si ce n'est que le seul livre que vous allez avoir chez vous, ça vaut la peine. Et dans Luc chapitre 12, à partir du verset 49 au verset 53, Luc chapitre 12, à partir du verset 49 au verset 53, je vais une fois de plus donner la parole à mon frère qui va lire pour nous tous.
Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli.
Jusqu'au verset 53.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible est formelle. C'est Jésus qui dit qu'à cause de son nom, il y aura forcément division, même dans une maison. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vérité divise forcément. Donc, si vous avez à cœur de suivre le Seigneur, de suivre la vérité, sachez qu'il y aura forcément division. Donc, ne cherchez pas à ce que les gens acceptent votre décision. Si vous vous levez pour suivre le Seigneur, pour suivre la vérité, c'est un choix personnel et vous devez assumer ces choix. C'est pour dire que n'ayez pas peur de suivre la vérité si c'est le désir de vos cœurs. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez suivre Jésus, faites-le de tout votre cœur pour être sauvé. Le salut est personnel. J'étais également à dire que si vous avez même des préoccupations même en dehors de cette émission, sentez-vous libre de venir nous voir pour que nous puissions en discuter, que ce soit par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à la prière. Sentez-vous libre. Il ne faut pas regarder les gens autour de vous pour voir s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Le plus important, est-ce que la décision que vous prenez, est-ce que c'est par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que c'est par rapport à la vérité? Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui aiment la vérité, beaucoup qui voudraient suivre le Seigneur selon la vérité, mais qui ont peur du « qu'en dira-t-on ? » Qu'est-ce que les gens vont dire ? Que j'ai abandonné la religion de mes parents, j'ai abandonné ma religion. Non, il n'y a aucune religion qui sauve. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé les religions sur la terre. Il y avait particulièrement le judaïsme qui était la meilleure des religions de cette époque. Mais ceux-là qui avaient déjà les religions, beaucoup parmi eux n'ont pas reçu son message. Et quand il y avait des gens qui étaient prêts à recevoir son message, ils abandonnaient les religions, le judaïsme, pour suivre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la dernière fois, nous avons lu dans Actes des Apôtres beaucoup de versets qui nous montraient que les religieux n'aimaient pas particulièrement le discours des apôtres. Chaque fois que les apôtres prêchaient la vérité, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, particulièrement même dans le temple qui était censé être le temple de Dieu, on venait, on les arrêtait et on les mettait en prison. Parfois, on les fouettait comme s'ils étaient des criminels. Tout simplement parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle aux gens. Mais ceux-là qui étaient des religieux, qui voulaient à tout prix garder leur religion, non seulement ils ne voulaient pas croire à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, parfois ils empêchaient même ceux qui voulaient croire de croire. Et allaient même jusqu'à arrêter les apôtres elle est fouettée. Nous avons lu suffisamment de versets pour ceux qui étaient à l'écoute. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, vous pouvez également relever ces versets pour les vérifier. Par exemple, dans Actes chapitre 4, à partir du premier verset au verset 4, à partir du verset 17 et au verset 21, Actes chapitre 5, à partir du verset 12 au verset 14, et à partir du verset 17 au verset 21, aussi à partir du verset 26 au verset 29, Actes 14, à partir du premier verset au verset 4, Actes 17, à partir du premier verset au verset 4, et Actes 19, à partir du verset 8 au verset 12. Relevez et nous allons prendre la peine de lire en passant au moins deux portions de Saintes Écritures dans cette série des versets que je vous ai donnés. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12 au verset 14.
Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple se tenait en grand nombre. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans leurs rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourut aussi des villes voisines de Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Il fit arrêter les apôtres et les jeta dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. »
Alléluia. Nous voyons comment on va arrêter les apôtres. On va les mettre en prison. Un ange du Seigneur va venir les faire sortir et Dieu va dire, allez toujours dans ce même endroit où on vous a arrêté et emprisonné et parlez, annoncez la bonne nouvelle. Pour dire que les vrais serviteurs de Dieu sont condamnés à dire la vérité. Même si cette vérité ne plaît pas à tout le monde, cette vérité est salutaire. Parce que Dieu sait que les hommes ne peuvent être éclairés et délivrés qu'au travers de la vérité biblique et non au travers de la religion et des dogmes des hommes. Et par exemple, si nous continuons tout dans ce chapitre 5, cette fois-ci, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29.
Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après les avoir ramenés, il les présentait au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »
Amen, voilà. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc l'homme aura toujours un choix à faire, soit obéir à Dieu ou aux hommes. Malheureusement, parfois beaucoup veulent obéir plutôt aux hommes, avec les théologies, avec les religions, avec les dogmes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, que d'obéir à la parole de Dieu qui doit les sauver. Rien ne doit être au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la vérité. Et celui qui, ou celle qui comprend cela, est une personne heureuse. Je vous ai donné une série de versets qui confirment que l'Église est née et s'est formée dans la division. La dernière fois, je vous disais également que l'écuménisme, c'est un projet venant du monde des ténèbres, l'écuménisme, à savoir le rassemblement de toutes les religions de la terre pour former un seul. C'est un projet qui vient de Satan, dans le but d'unir tous les hommes et de former une seule religion. D'ailleurs, à un moment donné, lorsque l'Antichrist va prendre ce monde en otage, il va tout faire pour qu'il y ait une seule religion. Et Satan va imposer même la manière de servir, d'adorer Dieu aux gens. Et les gens seront obligés de se soumettre. Et la Bible nous dit que ceux qui vont refuser n'auront qu'à payer au prix même de leur vie. Oui, au prix de la vie. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura que Satan qui sera vraiment le maître absolu de ce monde après l'enlèvement de l'Église. Si le Seigneur permet, nous allons parler en détail du retour du Seigneur et de l'enlèvement de son Église. Et je vous disais que comment se fait-il que les gens qui ne croient pas forcément à la même chose peuvent se réunir pour devenir un? Comment les gens qui ne prient pas de la même façon, qui n'ont pas le même Dieu, peuvent devenir un? Par quelle magie, par quel miracle? Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Par exemple, si nous lisons dans Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, le verset 3.
Deux hommes marchaient-ils ensemble sans s'être concertés? Parole du Seigneur.
Oui, la Bible nous pose la question, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas d'abord mis d'accord? Et on doit être d'accord sur la parole de Dieu, sur la vérité biblique. Donc, si nous ne sommes pas d'accord au niveau de la parole de Dieu, si malgré tout, nous disons que nous sommes un, c'est l'hypocrisie totale. Et il n'y a que le diable qui est le champion de l'hypocrisie. Oui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 18, oui, mon frère, si tu as la page de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, verset 10, tu peux lire.
Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Amen. La Bible est claire et formelle. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité, ou entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Donc, ce n'est pas parce que certains disent qu'ils croient en Dieu que forcément ça veut dire qu'ils croient au même Dieu que le chrétien vraiment né de Dieu, né de nouveau. C'est pour dire que l'écuménisme qui tente à réunir toutes les religions, à fédérer toutes les religions de la terre, ne vient pas de Dieu. Ça vient tout simplement de Satan, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. J'ai pris les exemples la dernière fois pour dire que, par exemple, dans certains temples, vous pouvez entrer et trouver des statues et beaucoup d'autres choses, des choses que la Bible condamne, par exemple même des bougies, de l'encens, comme si on était dans un temple du maraboutisme. Et comment les gens se prosternent parfois devant des statues, des images taillées? Comment voudrez-vous que quelqu'un qui croit véritablement à la parole de Dieu, qui dit que tu ne te feras pas d'images taillées, ni de statues, ni de représentations, des choses des cieux, tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et que vous vous dites que vous servez le même Dieu? Ce n'est pas du tout possible. Il faut être réaliste. Il ne faut pas se tromper soi-même. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas le seul chemin qui mène à Dieu, et que malgré tout, vous dites quand même que non, vous croyez au même Dieu, vous avez le même Dieu, par quelle magie? Ce n'est pas possible. Particulièrement, nos frères musulmans, et eux, ils disent que Jésus, c'est tout simplement un prophète comme tous les autres. Rien de plus. Il n'est pas Dieu. Il le reconnaît tout simplement comme un prophète parmi les prophètes. Alors que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La Bible est aussi claire et formelle. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Et le dernier verset que nous allons lire pour confirmer cela, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22.
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur.
Amen. La Bible nous dit de rechercher l'amour, la justice, la foi, surtout avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est très très important. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cela sous-entend que beaucoup n'invoquent pas le Seigneur sur la terre d'un cœur pur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers auditeurs, très chères auditrices, comme promis, nous allons continuer. Et je vous avais promis au départ, pour ceux qui étaient à l'écoute, que nous allons aborder beaucoup de sujets, que ce soit sur Jésus, le chemin du salut, le baptême, serviteur de Dieu, les dîmes, les offrandes, l'église. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà abordé tous ces sujets et nous allons continuer. J'avais également promis que nous allons aborder le sujet du mariage, un thème très 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 important. Oui, le mariage, parce que c'est un thème qui concerne toutes les sociétés qui existent sur cette terre et qui intéresse tout le monde. Oui, le mariage. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23. À ma très chère épouse, qui est en train de m'écouter en ce moment précis, je voulais juste lui dire que je l'aime beaucoup et qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus.
Amen.
Oui, mon frère, tu peux lire Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Et je dis, je t'aime beaucoup, bisous.
L'Éternel, Dieu, façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de la même os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Parole du Seigneur.
Amen. Déjà dans cette portion de Sainte Écriture, nous ne pouvons pas parler du mariage sans également ouvrir le livre du commencement, la Genèse, où tout a commencé. Et la remarque que nous pouvons déjà faire, c'est que Dieu est l'auteur du mariage. Dieu est cette personne, la première personne à penser au mariage. C'est très très important de souligner cela et de rappeler cela aux hommes. Parce que le constat est que si les mariages échouent, s'il y a trop de problèmes dans les mariages, s'il y a les mariages vraiment qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, s'il y a trop de désordre dans le mariage, c'est tout simplement parce que les hommes ont mis de côté cette personne qui a institué le mariage. Comment imaginez-vous réussir votre mariage tout en mettant de côté celui-là même qui est l'auteur du mariage? Oui, Dieu est l'auteur du mariage. Parce que parfois les hommes se comportent comme si ce sont eux qui ont inventé le mariage. Comme si c'était sorti de la tête d'un universitaire ou d'un philosophe ou d'un penseur. Non, le mariage vient de Dieu. Et il est bien placé pour nous aider à bien comprendre ce que c'est que le mariage et surtout à réussir dans notre mariage. C'est pour cette raison que j'avais promis d'aborder ce sujet à la lumière des Saintes Écritures avec vous. Et le Seigneur le permettant, nous allons aller pas à pas et essayant de toucher tous les aspects possibles par la grâce de Dieu afin que vous soyez vraiment éclairés. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, retenez, avant de continuer, que le mariage est une institution divine. Et la Bible est le seul livre qui est le mieux placé pour nous enseigner et pour nous éclairer concernant le mariage. Donc si vous vous engagez sur ce chemin qu'est le mariage en négligeant la parole de Dieu, sachez que vous êtes vraiment mal barré. Vous êtes mal barré. Vos chances pour réussir sont très minimes. Ça, il faut le savoir. C'est un peu comme si vous avez acheté un médicament sans avoir pris la peine de lire la notice. Vous allez prendre ce médicament en tâtonnant. Et ce médicament, au lieu de vous guérir, peut plutôt vous tuer. Oui. C'est pour cette raison que dans tous les médicaments, les vrais médicaments, il y a des notices à l'intérieur. Parce que ceux qui ont fabriqué ce médicament veulent se rassurer que les gens qui achètent ce médicament le prennent vraiment en tenant compte de ce qui est prescrit. De la même manière, si vous achetez une machine vraiment chère, avec une notice à l'intérieur, si vous ne prenez pas la peine de vous renseigner correctement ou de lire cette notice, vous allez, en tâtonnant, abîmer votre machine. Alors que si vous avez les renseignements qu'il faut, vous avez les connaissances qu'il faut avant de manipuler votre machine, il y a toutes les chances que votre machine mette l'homme. Donc c'est aussi simple que ça. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Vous écoutez toujours l'aide de la vérité, vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra libre. J'étais aussi à souligner, oui, parce que j'essaie de planter le décor en ce qui concerne le mariage avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Je tiens également à souligner d'emblée que contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer ou penser, le mariage n'est pas une fête religieuse. Le mariage est une fête familiale à la lumière des Saintes Écritures. C'est très très important. Le mariage n'est pas une fête religieuse, c'est une fête familiale. Et nous allons comme cela lire quelques portions de Saintes Écritures pour confirmer cela. Nous sommes dans Genèse, par exemple, 24, à partir du verset 57 au verset 60. Du moins, c'est tout le chapitre parle du mariage. Mais nous allons, vous pouvez relever, mais après lire tranquillement les versets qui nous intéressent, à partir du verset 57 au verset 60, que mon frère va se charger de lire.
Alors il répondit, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rebecca et lui dit, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chevaux et suivirent l'homme.
Alléluia, on peut s'arrêter. En fait, nous voyons ici Rebecca, qui va devenir la femme d'Isaac. Nous voyons tout simplement que lorsque la jeune fille ou devenir la femme d'Isaac, ses parents vont la bénir. Et cette bénédiction sera validée au ciel. Comprenez très bien ce que je dis. Quand il dit que le mariage est avant tout une fête familiale et non une fête religieuse, c'est pour dire que quoi? Lorsque une famille est d'accord de donner sa fille en mariage à un homme, toutes les bénédictions que ce soit le père ou la mère vont prononcer, vont se matérialiser. Oui, parce que dans la sainte parole du Dieu vivant, ce sont les parents qui bénissent les filles lorsqu'ils les envoient en mariage. C'est très très important. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 20 au verset 22, parlant cette fois-ci de Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 20 au verset 22.
Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir avec elle. Laban réunit les habitants de l'endroit et donna un festin. Parole du Seigneur.
Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Donc, nous voyons, la famille a organisé une grande fête par rapport à ce mariage qui devait avoir lieu. C'était une jouissance familiale. Je tiens à souligner cela. Pourquoi? Parce que de nos jours, parfois, beaucoup pensent que s'ils négligent la famille dans les mariages, par exemple, beaucoup vont se marier même en cachette, sans tenir compte de la vie des parents, ce qui est très très grave. Même si vous partez voir un pasteur ou un prêtre pour vous bénir, entre guillemets, cette bénédiction ne marchera pas. Parce que ceux qui sont censés vous bénir avant toute autre personne, ce sont vos parents qui vous ont mis au monde. C'est très très important de le savoir. Parce que ce n'est pas normal qu'un parent, un père ou une maman élève sa fille et que du jour au lendemain, ils entendent seulement que leur fille est mariée sans qu'ils ne soient même au courant et on ne sait même avec qui. Peut-être même dans une église ou dans une religion. Et après, on va être étonné qu'il y ait des problèmes. Très chers auditeurs, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, surtout vous qui êtes encore jeunes, particulièrement jeunes filles, sachez que vos parents sont les premières personnes qui vont vous bénir lorsque vous allez partir en mariage. Si vous négligez les bénédictions, ce n'est pas la bénédiction du prêtre ou du pasteur qui fera grand chose dans votre vie. Il faut vraiment le savoir. Le mariage reste avant tout une fête familiale. Et mon frère peut également ouvrir dans Jean chapitre 2 à partir du premier verset au verset 11. Oui, mon frère, si tu as la page, tu peux lire. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 2 à partir du premier verset au verset 11.
Or, le premier jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Fais tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jars de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 100 de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jars. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Parole du Seigneur.
Oui, amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, si j'ai tenu à ce que nous le lisions, c'est le seul passage dans le Nouveau Testament qui nous parle particulièrement du mariage où Jésus était présent. Oui, Jésus était présent à Cana lors des mariages. Ce qui est curieux, c'est que Jésus n'a même pas prêché ce jour. Jésus n'a même pas imposé les mains aux mariés pour qu'ils soient bénis. C'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'était l'occasion pour lui de se lever et de bénir même spécialement ce mariage. Mais la seule chose qu'il a faite, c'est donner à boire aux gens. Il a respecté l'organisation. Il a seulement donné à boire aux gens. C'est très très important de souligner. Pour dire que quoi? Lorsqu'on parle de mariage, la priorité ne doit pas être mise sur l'organisation religieuse de la chose. L'accent doit être mis sur l'organisation au niveau de la famille. Si déjà au niveau de la famille, tout est propre, tout est clair, en réalité, ce mariage est déjà béni. Parce que les parents sont comme les sacrificateurs de Dieu en ce moment-là. Maintenant, si les mariés sont les chrétiens, naturellement, ils peuvent inviter les gens et les chrétiens aussi, et même les hommes de Dieu, pourquoi pas? Mais la vérité, c'est que nous ne voyons pas dans la Bible un mariage qui a été validé parce qu'un prêtre a béni, un pasteur a béni, ou un apôtre même, que ce soit au temps des apôtres. Non, nous ne voyons pas une telle chose. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur, un prêtre ou un apôtre ne peut pas prier pour les mariés. Mais il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Un couple est béni parce que ils ont suivi le canon prévu par la parole de Dieu. À savoir, aller, d'ailleurs nous allons le voir pas à pas, ça dépend des coutumes et des traditions. Lorsque un homme veut épouser une fille, il s'approche tout simplement des parents. Et si les parents sont d'accord, ça dépend des traditions, comme je le disais tantôt, ils lui disent ce qu'il doit faire. Et lorsqu'ils vont tomber d'accord, tout naturellement, les parents de la fille vont donner leur bénédiction à leur fille et organiser un mariage qu'on appelle vulgairement coutumier. À partir de là, en réalité, les mariés sont déjà bénis. Il est vrai que ils peuvent aller maintenant à la mairie et nous allons voir les avantages qu'il y a à aller à la mairie. En passant, par exemple, nous voyons en général, lorsque un homme meurt en laissant une veuve, si il n'avait pas de papiers officiels, cette femme peut être vraiment lésée et même chassée même de la maison. Mais si ils sont mariés légalement, c'est vraiment une couverture pour la femme et même les enfants. Oui, Dieu sera avec elle et aussi même la loi des hommes sera avec elle pour la soutenir dans son combat. Par contre, si un mari meurt et que la femme n'a rien pour prouver légalement que celui qui est mort était son mari, surtout avec les enfants, les gens peuvent abuser, parfois, comme je le disais tantôt, en la chassant même de la maison et en prenant tous les biens que le mari a laissés. C'est pour cette raison que c'est très important à ce niveau d'aller vraiment à la mairie. On ne perd absolument rien en le faisant, tout au contraire, on a tout à gagner. Vraiment, tout à gagner. Et on ne peut pas parler du mariage sans parler du choix du conjoint. C'est très très important, parce que ça commence par là. Et lorsque le choix est déjà mauvais, c'est sûr qu'il y aura un mauvais mariage. C'est là que tout commence. Le choix du conjoint. Et comment choisir? Puisque Dieu est l'auteur du mariage, comme nous l'avons lu dans Genèse, tout naturellement, l'homme ou une femme qui pense au mariage doit mettre d'abord ses genoux au sol pour prier et dire: Seigneur, je voudrais déjà me marier, et toi qui connais mon cœur et toi qui connais la personne qu'il me faut, guide-moi vers cette personne. Lorsqu'on prie déjà avec foi, en faisant confiance à Dieu, si on est vraiment sincère dans sa prière, Dieu lui-même se chargera de vous conduire vers cette personne avec qui vous pourrez faire un bon mariage. C'est très très important, parce que parfois les gens s'engagent sans prier, sans chercher la volonté de Dieu, peut-être en se laissant tout simplement attirer par les regards, par les yeux, et l'apparence étant trompeuse, comme on a l'habitude de le dire. Oui, parce que si votre seul critère, c'est tout simplement quelqu'un qui est beau ou riche, ou une femme qui est très belle, si c'est ça votre critère principal, supposez que après votre mariage, cette personne devient pauvre, ou laide, entre guillemets, peut-être à cause d'un accident, je ne sais pas moi trop quoi, qui peut survenir d'une manière ou de l'autre. Alors si c'était ça votre critère, le mariage va également finir le jour où les biens ou l'argent va finir, ou la beauté va aussi finir. C'est pour cette raison que on doit vraiment prier. Et si c'est Dieu qui vous conduit vers cette personne, l'amour sera au centre. Parce que la Bible nous dit d'abord que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dans Amos 3, que nous avons, par exemple, lu tout à l'heure, 3:3, il disait que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. À moins qu'ils ne soient d'abord tombés d'accord. C'est également valable pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement être ensemble, mais c'est aussi beaucoup plus regarder dans la même direction. Parce que on a remarqué que beaucoup de gens parfois se marient alors qu'en réalité ils n'ont absolument rien en commun. Comment est-ce que deux personnes qui n'ont absolument rien en commun peuvent espérer réussir dans leur mariage? Ce n'est pas possible. C'est cette raison que on doit se rassurer après avoir prié. Et lorsqu'on va faire la démarche, on va se rassurer que la personne qui est en face, la personne avec qui on voudrait faire sa vie dans le cadre du mariage, c'est une personne avec qui on peut cheminer jusqu'à la fin. Parce que le mariage, c'est une fois pour toutes. Je tiens également à le signaler. J'y reviendrai en détail. Dieu n'a pas prévu le divorce dans son plan. Dieu n'a jamais prévu le divorce. Le divorce n'est pas biblique. C'est condamné par la parole de Dieu. Donc on se marie une fois pour toutes. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir toujours à la lumière des Écritures quand est-ce qu'on est réellement marié et quand il arrive que pour des multiples raisons qu'on se sépare, parce que la séparation n'est pas le divorce, parce que ça peut arriver qu'on se sépare, mais ce n'est pas le divorce. Donc pour dire que tous les divorces qui se prononcent dans les tribunaux de ce monde, ça ce sont les choses des hommes, c'est là où les hommes ont failli, parce qu'ils n'ont pas vraiment tenu compte de la parole de Dieu. Si le Seigneur le permet, nous allons revenir vraiment en détail sur tout cela. Nous pouvons lire également dans Luc chapitre 14, à partir du verset 26 au verset 30.
Si quelqu'un vient...
Luc 14, à partir du verset 26 au verset 30. Oui.
Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé la fondation, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu terminer. » Par le Seigneur.
Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit ici que si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir et calculer les dépenses, tout ce qu'il faudra pour être sûr qu'il va finir sa tour ou une très grande maison. Sinon, il va commencer et en cours de route, il n'y aura plus les moyens pour achever. Et les gens vont passer et se moquer de lui en disant il n'a pas pu achever ce qu'il a commencé. Et également, le mariage, c'est un projet très très sérieux. Beaucoup de gens prennent cela à la légère parce qu'ils ne savent même pas qu'on se marie une seule fois dans la vie. C'est pour cette raison que beaucoup prennent le mariage à la légère. C'est très très sérieux. C'est une affaire où on doit s'asseoir et réfléchir longuement avant de s'engager. Parce que lorsqu'on s'engage, on ne rentre plus en arrière. On ne rentre plus du tout en arrière lorsqu'on s'engage déjà sur ce chemin. D'ailleurs, mieux vaut vivre heureux célibataire que de vivre l'enfer dans le mariage. Oui, c'est très très important. Beaucoup de gens peuvent vivre très très heureux et même le paradis en étant célibataire que de vivre en enfer ou l'enfer dans le mariage. Je tiens vraiment à insister à ce niveau. Ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas l'amusement. Si notre société va mal, c'est parce que même le mariage va mal. Parce que La famille étant ce socle sur lequel repose beaucoup de choses dans notre société, si déjà cette cellule va mal et détruite, la société ira mal. Il n'y a point de doute. Donc je crois que si beaucoup prennent vraiment le mariage au sérieux et s'engagent selon les bases bibliques et calculent tout ce qu'il faut et sont prêts à payer le prix lorsqu'ils sont déjà dans le mariage, je crois que ça sera mieux pour tout le monde et la société se portera de mieux en mieux. Que le Seigneur vraiment nous accorde sa grâce dans ce sens et aide particulièrement tous ces auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Et nous voyons à la lumière des Saintes Écritures que la Bible nous parle aussi des fiançailles. Nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 par exemple. Au moins un verset pour soutenir. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Oui, mon frère, tu as la parole, tu peux lire pour nous tous.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous parle ici de Marie qui était fiancée à Joseph. Et pourtant, ils ne vivaient pas encore ensemble. Ils étaient bel et bien fiancés, mais ils ne vivaient pas ensemble. Pour dire que le fiançailles, ce n'est pas du tout le mariage. Oui. C'est tout simplement promesse des mariages. Pour dire que, à tout moment, on peut rompre les fiançailles. Les fiançailles, c'est tout simplement ce laps de temps qui permet aux futurs mariés de se connaître davantage et de réfléchir encore davantage et de mûrir davantage les décisions avant de s'engager définitivement. C'est pour cette raison qu'à tout moment, les fiançailles peuvent se rompre, étant donné que ce n'est pas encore le mariage. Et si les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage, les relations sexuelles n'ont pas non plus leur place dans les fiançailles. C'est également ce que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup pensent que les fiançailles, c'est déjà le mariage. Ils peuvent dormir ensemble, habiter ensemble, coucher ensemble. Non, pas du tout. Si vous couchez ensemble et qu'il arrive que vous ne vous mariez pas, vous voyez que ça ne se présente pas bien. Aucun homme n'aimerait épouser une fille qui a déjà couché avec beaucoup de gens. Et vice-versa. Beaucoup disent parfois que non, ils couchent ensemble pour goûter. Non, est-ce que la femme, ce sont les arachides qu'on doit goûter? La femme, ce ne sont pas les arachides qu'on doit goûter. Ni l'homme non plus. Vous aurez tout le temps, si vous êtes fait l'un pour l'autre, si le Seigneur permet que vous alliez jusqu'au mariage, vous aurez tout le temps pour cela. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Le Seigneur le permettant, nous serons là pour continuer à nous entretenir sur ce même sujet qui est très très intéressant, à savoir le mariage. Nous allons continuer dans les fiançailles, à savoir que ce n'est pas du tout le mariage. Et nous allons lire beaucoup de versets pour confirmer tout cela. Et je crois fermement que vous serez énormément édifiés et bénis. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de rester tout simplement toujours scotché à l'heure de la vérité, qui est votre émission, où la vérité biblique est proclamée tout simplement, sans compromis et sans détour, pour vous éclairer et surtout pour vous affranchir. Parce que Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un mot?
Je veux tout simplement encourager mes frères et sœurs à tenir bon et à suivre vraiment le chemin de Christ, car c'est le seul chemin qui est gagné du lait et du miel. Oui, car tous les autres chemins sont des chemins sans issue. Donc je vous encourage vraiment à tenir le chemin du Seigneur Jésus-Christ, car c'est le chemin qui est gagné vraiment du salut. Amen.
Amen, oui, tu l'as bien dit. Jésus reste demain le seul chemin. Et le chemin qui nous mène à la vie éternelle, le chemin qui nous mène à la liberté, le chemin qui nous mène au bonheur parfait. Lui-même l'a si bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Et personne ne peut venir à Christ et ne pas trouver une solution à son problème. Parce que Jésus est la solution à tous nos problèmes.
Amen.
Que les honneurs, la louange, l'élévation, les actions de grâce, les acclamations, l'adoration reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir, non seulement ici-bas, même dans les cieux maintenant et pour des siècles et des siècles. l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ qui revient très très bientôt. Amen.
Ben.
Et avant de nous séparer, je tiens à dire que toutes les émissions, vous pouvez également les avoir tout simplement en vous rapprochant de moi. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter les émissions précédentes, ces émissions existent déjà sur des CD. Ou si vous voulez les écouter également, vous pouvez tout simplement vous rapprocher de moi. Et je tiens à signaler que tout cela est distribué gratuitement par la grâce de Dieu, aussi longtemps que le Seigneur permettra qu'il y ait les moyens pour les produire.
Amen.
Une fois de plus, un bisou à ma très chère épouse qui est à la maison et qui attend que je rentre le plus tôt possible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NGENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.